20 minutes avant la fin du monde. Le podcast d'autodéfense écologique.
Allez, on pose les smartphones, on ferme les ordis, on délaisse les lumières bleues des écrans, celles des villes et des ciels obscurcis. Et on laisse notre regard grimper jusqu'aux étoiles. Ah, les étoiles. Elles ont guidé les navigateurs, puis nos imaginaires, des milliers de livres, de films, d'épisodes, de séries, pour nous raconter tout ce qui se passe dans des galaxies très lointaines. Dans nos yeux, l'espace est tout sauf solitaire. Mais si c'était vrai, si nous n'étions pas les seuls et qu'il y avait tout là-bas d'autres formes de vie, est-ce que ça changerait quelque chose sur Terre et à notre façon de lutter contre l'urgence écologique? Pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi deux des meilleurs experts de notre galaxie.
C'est vrai.
Sarah.
Bonsoir Antoine.
Et Greg.
Bonsoir.
Bon, dites-nous, si jamais il, en majuscule, était là, intelligence venue d'ailleurs, s'il débarquait tout de suite, qu'auriez-vous envie de leur dire pour commencer?
Moi, j'aurais envie de leur dire, ne nous jugez pas trop vite. On a quand même fait des trucs un peu cool. Je sais pas face à quelle forme d'intelligence je serais, mais j'aurais peur d'avoir un jugement très négatif sur la manière dont on vit, la manière dont on traite ceux qui ont le moins, la manière dont on traite notre planète. Et donc, j'aurais envie de dire à nos amis extraterrestres, soyez indulgents avec nous.
Ne nous grondez pas.
Ouais, moi, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, parce qu'il y a de fortes chances qu'ils n'aient pas du tout la même façon de penser, voire être. Est-ce qu'ils penseraient comme nous? Je ne crois pas. En tout cas, moi, Antoine, je voulais dire que je n'avais pas besoin de les attendre, les martiens.
Mais pourquoi, Greg?
Parce que je vais aller les voir.
Tu n'es pas un martien.
Non, je ne suis pas un martien.
Ah, d'accord, j'ai eu peur à un moment donné. Il y a un truc vert qui dépasse de ton.
Oui, voilà. C'est vrai. Mais bientôt, parce que j'ai envoyé mon nom sur Mars. La NASA.
T'as fait ça comment?
Alors, la NASA a proposé sur son site de s'inscrire pour inscrire son nom sur le prochain rover qui va partir en juillet 2020 et qui va aller. Qui va aller se balader sur Mars, et donc il y aura mon nom dessus parmi plein d'autres noms, mais je suis très fier et j'ai un ticket que je vous montrerai à la fin de l'épisode entre nous, hein, pas pour vous les auditeurs.
Ah, faut pas contre le pic,
mais j'ai un vrai ticket de la NASA qui dit que mon nom va aller sur Mars. C'est génial, j'adore.
Ah bah là, écoute, franchement, bravo Greg. Alors, t'es pas le premier à avoir ce désir d'exploration, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers l'histoire, l'envie d'aller voir toujours plus loin, de la Terre au ciel, en commençant peut-être par la Terre et les continents.
Bah oui, de toute manière, de tout temps, l'homme a eu envie d'explorer ce qu'il ne connaissait pas. Donc, il est parti à la conquête des territoires, à la conquête des mers. On a découvert l'Amérique. Voilà, on a fait le tour de la planète. Et puis après, bien sûr, dans la littérature, dans les fantasmes, on s'est dit, allez, si on allait encore plus loin, dans l'espace, sur la Lune. On a de la Terre à la Lune de Jules Verne en 1865.
Ouais,
donc,
déjà,
depuis toujours, on a envie d'explorer le monde qui nous entoure.
Ouais, je suis d'accord. En fait, ça rejoint la nature de l'homme. Et finalement, enfin, quand on regarde son histoire, on est très curieux. Dès qu'on a pu avoir un bateau, des nouveaux instruments, la boussole, etc., pour découvrir, comme tu l'as dit, Sarah, on a été découvrir toutes les côtes, l'Amérique, etc. Et moi, j'avance un petit peu plus loin avec ça, parce qu'on a aussi l'histoire de l'aviation au début du 20e, fin du 19e, où on va, grâce au moteur, aller beaucoup plus vite, grâce aux ailes, hein, évidemment. On va survoler les zones dites hostiles, les pôles, les déserts, les montagnes. Grâce au moteur, on est bien plus puissant. Et puis, alors moi, j'ai envie de dire merci l'aviation, merci les missiles V2 des Allemands pendant la guerre. C'est grâce à ce moteur qu'on va pouvoir aller s'affranchir de la gravité terrestre et aller dans l'espace. Et c'est quand même un nouveau terrain de jeu.
Alors, le savant Von Braun, récupéré les Américains après avoir travaillé avec les nazis. Et on voit bien que la science, donc c'est pas la science en tant que telle qui tomberait d'en haut, c'est une forme sociale, c'est-à-dire qu'elle est élaborée par des situations historique particulière. Et cette nature dont tu parles, Greg, c'est aussi beaucoup quand même la soif du profit d'un petit groupe d'hommes blancs qui, par la conquête et l'exploration, cherche simplement à accroître sa domination, à posséder des terres, asservir des individus et s'en mettre plein les poches.
Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on ne parle pas d'exploration spatiale. On parle d'abord de conquête spatiale.
De conquête.
Il va falloir aller conquérir d'autres mondes. On a déjà conquis la Terre. Comment est-ce qu'on va conquérir l'espace ?
Alors, l'espace, c'est la Lune pour sauter directement en juillet 1969. Alors...
Pardon Antoine, je t'arrête, c'est faux. Le premier homme à être allé sur la Lune, c'est Tintin.
Exactement.
1950.
Ah, oui. Exactement. Bien, c'était pas Jules Verne, t'avais pas cité Jules Verne en 1865.
C'était de la littérature. Tintin, c'est vrai.
C'est ça, exactement. Ils sont très nombreux. Vous étiez où en juillet 69?
Eh ben, j'étais même pas dans le ventre de ma mère.
Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en reste de ce moment qui a été suivi en direct? Quand on a grandi comme nous, c'est pas une révélation que de le dire, on a tous les trois grandi dans les années 90, qu'est-ce qu'il en reste?
Il en reste déjà le souvenir de nos parents. Moi, j'ai demandé à mes parents où ils étaient justement en 1969.
Alors,
parce que c'est vrai que c'était un moment de mondovision, c'est-à-dire que en fait, on rediffusait cet événement partout dans le monde. Et mon père m'a dit qu'il était devant la télé et qui regardait justement Buzz Aldrin marcher sur la Lune. C'est quand même, moi je trouve ça...
C'est sympa de citer Buzz, parce qu'en général, c'est pas lui qu'on...
Oui, c'est
qu'on
ça. Oui, ça c'est,
J'en ai cité.
C'est le poulie d'or de la conquête spatiale. Quoi.
Et on oublie le troisième qui est resté dans la navette à ce moment-là. J'ai oublié son nom d'ailleurs.
Voilà. Et ce qui est étonnant, alors moi j'ai lu un super article, on le mettra sur les réseaux, de Pierre Barthélémy, qui est un journaliste du Monde vraiment, qui a fait une super enquête en 6 épisodes. Ce qui est très marrant, c'est que les États-Unis à l'époque ont un modèle extrêmement centralisé. Et ce sont les Soviétiques qui font jouer la concurrence entre agences et organisations sans leadership unique. Donc on a un petit peu ce front renversé. Et puis juste vraiment quelques chiffres. Le programme Apollo, c'est-à-dire le programme pour aller sur la Lune, c'était pas le seul, hein, parce qu'il y a d'autres programmes en même temps. C'est 20 000 entreprises, 400 000 personnes qui travaillaient pour ce programme, 150 milliards de dollars.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'avant que les Américains aillent sur la Lune, c'était plutôt les Russes, les Soviétiques qui étaient en avance et qui ont gagné les premiers puntos de la conquête de l'espace, avec le premier vol spatial orbital par Sputnik 1 en 57 et le premier vol habité par un humain en 61 avec ce bon vieux Gagarine.
Alors moi, ce que j'ai appris effectivement dans cette enquête, malgré tout, c'est qu'au moment où Armstrong est sur la Lune, il y a une suspension de ce conflit puisqu'il pose un paquet, moi j'ai vraiment trouvé ça très touchant, en mémoire de 3 astronautes américains morts en 67 et 2 médailles, l'une en mémoire de Yuri Gagarine et l'autre de Vladimir Komarov, qui était un autre astronaute russe.
J'ai cru
mort
Poutine.
Mission.
J'ai cru non, sacré Poutine, même
Poutine,
à même là.
Poutine, voilà, n'a pas droit à sa, voilà, à sa médaille sur la Lune. La Lune, c'était une étape, on va
c'est
peut-être
bien
y retourner, on en parle. C'est checké dans la conquête spatiale. Si je peux dire, il y a d'autres planètes qui regardent vers nous, ou qu'on plutôt on regarde vers elles, Mars et Vénus.
Ah oui, on a de plus en plus envie d'aller jusqu'à Mars, jusqu'à Vénus. Alors, la première sonde qui s'y pose sur Mars, c'est en 1976, après une quarantaine de missions qui ont été lancées.
C'est super longtemps. Hein.
Ouais, c'est il y a très longtemps. La moitié avait échoué quand même. Mais surtout, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'on a un peu exploré la surface de Vénus et on s'est rendu compte que sur Vénus, la température était très élevée, car l'atmosphère est très épaisse et elle est composée de quoi ? Eh bien, je vous le donne dans le mid.
De Vénus.
De dioxyde de carbone.
Ça me rappelle un truc.
L'effet de serre, en fait, l'effet de serre existe sur Vénus et donc les phénomènes physiques qui régissent la Terre, ben, ils sont universels, les mecs.
Et donc, c'est universel, mais est-ce que Vénus, c'est le futur de la Terre ?
Eh ben, j'espère pas pour nous, parce que ça a pas l'air de très bien se passer.
Il y a pas foule, hein, jusqu'à présent sur Vénus. Cette exploration spatiale, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est finalement quelque chose de positif pour voir le monde, voir le monde comme un tout? On en revient à l'écologie, c'est de se dire, voilà, est-ce que c'est en allant voir au-delà des frontières de la Terre, c'est-à-dire en se pensant comme une seule espèce, qu'on acquiert cette conscience écologique, qu'on est cette espèce humaine un peu singulière dans la galaxie?
Moi, je pense que c'est indispensable. Encore une fois, dans les années 50 jusqu'à 80, on va développer des outils fabuleux. Alors, on est dans la lignée des grandes découvertes, hein, donc dans la curiosité de l'homme. Mais grâce à ces nouveaux outils, comme on peut citer le satellite, hein. Après, avec le satellite, amène la photosatellite, le radiotélescope, les observatoires, la météorologie qui s'améliore, eh ben on continue à classifier et donc en fait on prend du recul, c'est-à-dire qu'on prend du recul, on classifie et si on classifie pas, on peut pas comprendre le monde. Donc mieux observer le monde, c'est aussi mieux le comprendre et mieux le comprendre, ça permet d'agir contre le réchauffement climatique par exemple. Et puis d'un point de vue
extraterrestres, donc c'est-à-dire au-delà de notre Terre, on peut aller beaucoup plus loin, on peut se dire qu'on va aller rechercher d'autres planètes. Et c'est ça aussi l'exploration.
Oui, et d'ailleurs, moi, ça m'avait beaucoup frappé au moment où on a eu toutes les news autour de Thomas Pesquet. Il avait vraiment...
Alors avec ses selfies, hein, on
exactement.
Voit bien le
il
succès. Ah, non, mais ouais. C'est un incroyable succès.
C'est incroyable, et on voit bien ce côté où il n'a pas arrêté de répéter, en fait, nous ne sommes qu'un, regardez cette planète... Voilà, tout ça, c'est nous, nous sommes un tout. Arrêtons de nous différencier. Alors, et de nous taper dessus.
Exactement. Il y a l'idée du tout. Moi, j'ai vu un super film à l'automne dernier qui s'appelle Proxima d'Alice Vinocourt. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non.
C'est
non.
un très beau film sur l'entraînement d'une spationaute et les liens qu'elle a avec sa fille. Et ce que je trouve très beau, c'est que ce n'est pas tant que... En allant en haut, on voit cette bille bleue qui est observée par les cosmonautes ou spationautes. Le nom change selon les pays. Mais c'est les liens qu'elle a vraiment avec sa fille. C'est-à-dire comme si s'arracher du sol, parce que c'est ça que fait le décollage de la fusée,
ouais.
c'était une autre occasion de mesurer la force incroyable des liens qui nous y rattachent et qui nous rattachent sur Terre aux gens qu'on aime.
Ouais,
c'est beau.
C'est assez beau. Je suis content que tu dises le point bleu, parce qu'en fait, le point bleu, c'est une référence à une photo de Voyager qui a été prise dans les années 90. Et en fait, c'est aussi, je me répète, mais c'est la recherche de points bleus. En fait, un point bleu, ça veut dire que dans l'univers, si on trouve un point bleu, c'est-à-dire qu'il y a de la vie. Alors, on met aussi en relation le point bleu avec une photo, je ne sais plus comment elle s'appelle, la photo qui avait été prise depuis la Lune et on voyait le lever de soleil de la Terre. Et en fait, ça permet aussi de prendre beaucoup de recul sur la Terre et de se dire, ok... Maintenant qu'on est derrière, qu'est-ce qui se passe là-dedans, quoi ?
Mais est-ce que ça va faire, dans ce cas, de l'espace une espèce de destination touristique ?
Bah, c'est un peu la prochaine conquête spatiale, n'est-ce pas, de pouvoir tous aller dans l'espace. Et donc, on voit de plus en plus de lanceurs commerciaux, le tourisme spatial. Le premier homme d'affaires américain qui a fait un voyage de touriste dans l'espace, c'était en 2001, il s'appelle Denis Tito. Il a quand même payé 20 millions de dollars.
Ça va.
Oh, c'est plutôt... Il avait eu une réduction.
Une petite ristourne.
Ouais.
Et il y a même des gens qui réfléchissent à est-ce qu'on pourrait pas construire des hôtels spatiaux sympas.
Paye ta carte de fidélité. Ouais, c'était 20 millions, ouais, d'accord. Non, bon, je pense que pour certaines personnes, en fait, il n'y a pas besoin de faire des hôtels parce qu'ils, avec toujours les lettres majuscules, sont déjà là. Et je vous propose d'entendre un monsieur qui, lui, les a vus.
Vous étiez dans ce champ ou chez vous ?
Non, je venais d'une réunion. Oh, ensuite, je suis rentré chez moi. Il était 10h20, j'ai gardé ma montre.
Le soir. Le soir.
Alors je dépose ma bobinette, je prends ma clé, j'ouvre ma porte, et au moment que je veux prendre ma bobinette pour la rentrer à l'intérieur, qu'est-ce que je vois cet engin-là. Rouge. Cylindrique, gros comme ça. Hein. Au moins 4 mètres de haut, vous voyez ces arbres-là. Ben, ça dépassait presque les arbres-là.
Il était déjà sur place.
Il était sur place quand je suis arrivé. Hein. Je ne l'ai pas vu atterrir. J'ai vu partir, mais je ne l'ai pas vu atterrir. Hein.
Mais vous êtes allé voir de plus près ou vous êtes resté
là ? Ah non, oh là là, j'avais trop peur, moi. Hein. Et là. Ah non, moi j'avais peur. Hein. Ah non, ça y est, rien à faire. Hein. Ah non. Et moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais rien. Mais c'est un danger public. Il est bientôt temps qu'on s'en occupe, hein. À 150 mètres des agglomérations, vous vous rendez compte ?
À 150 mètres des agglomérations. Moi, ce que je trouve incroyable, je veux dire, c'est ça aussi qui est beau avec ce pays qu'on appelle la France, c'est que le type voit des extraterrestres et évidemment, à la fin, il trouve le moyen de râler en disant « Mais putain, vous vous rendez compte, à 150 mètres de chez moi, qu'est-ce qu'on fait ?»
Comment je le rejoins, c'est dégueulasse. En fait, si les extraterrestres viennent à 150 mètres des habitations, du lotissement, bon, bah, tu vois, il n'y a plus de respect. Quoi.
Alors, il n'y a plus d'État. Enfin, on dit ils viennent, mais jusqu'à présent, ils sont pas clairement venus et il y a un paradoxe justement qui essaie de réfléchir là-dessus, c'est le paradoxe de Fermi, Enrico Fermi.
Alors Enrico Fermi, qu'est-ce qu'il se dit ? Et je trouve qu'il n'a pas complètement tort, en fait, le bougre. Il dit qu'il y a quand même une petite contradiction entre le manque de preuves de l'existence d'une vie ailleurs, d'une vie autre que la nôtre,
ouais.
d'une vie extraterrestre, et l'âge de l'univers, qui est là depuis des sacrés millions et millions d'années.
Combien exactement ça ?
Sacrés okay, millions okay. et millions d'années. Et toutes ces planètes qui existent, c'est quand même pas possible qu'il n'y ait pas quelque part de la vie, en fait.
Où sont les aliens ?
Où oui, sont-ils ?
C'est ce qu'il dit. Il dit, je cite entre guillemets, hein, « S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient être déjà chez nous. » Où sont-ils donc ?
Bah alors, c'est ça la question. Moi, j'ai envie de vous poser, et qu'on se pose aussi, et que tout le monde se pose la question, où sont-ils donc ? Parce qu'on pourrait se dire, dire que, bah, en fait, ils sont là, ils sont venus, ils ont regardé, ils ont dit non, bah, franchement, espèce super craignos, pas pour nous, non merci, quoi.
Ouais, c'est un peu facile comme question parce que c'est vrai que.
C'est facile comme question, non, sur mais les extraterrestres.
En fait, on peut comprendre. Moi, perso, je pense qu'il y a de la vie ailleurs, mais bon, ça ce n'est basé sur rien, c'est juste une impression personnelle. Mais après, c'est vrai que pour faire une image, hein, on prend un verre vide, on le plonge dans l'océan, on le ressort, on dit. Ah bah il y a pas de poisson. Ah bah donc il y a pas de vie. Bah, tu sais tu l'as pris une seconde.
C'est... Ouais, c'est pas
ah
con,
c'est
ouais.
Joli.
Donc en fait c'est un peu pareil. Faut remettre en perspective l'univers. Il est infini, donc forcément, tu vois, il y a de fortes chances qu'il y ait des choses et qu'on ne les trouve pas.
Depuis le départ, je sais que tu fais de la science en 12, Greg, et je suis content chaque fois que, disons, le masque.
C'est pas mes termes, je vous dirai qui c'est à la fin.
Moi, c'est un peu triste, mais je crois qu'il n'y a pas de vie ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on est un tel fruit du hasard que, voilà, je ne vois pas vraiment de vie ailleurs.
Pourtant, on est une espèce de grand enfant, de.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que je voulais reprendre donc, un bouquin de Adam Frank, Lights of Star, qui a été publié en 2018 et qui dit qu'il y a cette idée que toute jeune civilisation va faire quoi ? Déclencher un changement climatique et qu'en fait, nous, on est des putains d'ados climatiques et qu'en fait, on est en train de se tirer une balle dans le pied parce qu'en fait, on a suffisamment de pouvoir pour changer notre planète, mais peut-être pas assez de recul et de sagesse pour se dire, il faut peut-être qu'on ralentisse un peu, les gars.
Alors, ça rejoint la théorie du grand filtre, c'est-à-dire que les civilisations mourraient avant de se répandre dans la galaxie et de partir à la conquête de l'espace. Alors, la conquête, on a quand même essayé d'envoyer un message, c'est le programme SETI.
Ouais, alors le programme SETI, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois un programme qui recherche des messages extraterrestres et un message qui envoie des messages pour les extraterrestres. Alors, on a envoyé des espèces de sondes avec des pictogrames dessus, mais...
franchement, Greg, tu les as vus, ils sont clairement illisibles. Hein. moi, si tu m'envoies ça pour me dire, bon, on enregistre un épisode d'un podcast... c'est parti. Enfin, très sincèrement, je peux pas les écouter.
Après, ils sont très science-fiction années 70. Quand tu les vois, t'es un peu fasciné, mais je pense que n'importe qui dans la galaxie qui le reçoit, il va se dire, ok, bah, je sais pas ce que c'est, quoi.
Ouais, c'est ça. J'attends la deuxième lettre.
Quoi. Ouais. Et en gros, à partir du moment où le programme SETI est arrivé, on a commencé à chercher surtout des ondes radio. Parce que nous, ça faisait peu de temps qu'on émettait des ondes radio. Les ondes radio, c'est plutôt la moitié du 20e. Et donc, on s'est focalisé là-dessus. Mais c'est vrai que quand on regarde notre propre histoire, c'est-à-dire ça fait 50 ans qu'on émet des ondes radio, si jamais il y a une entité, ce mot est un peu ésotérique, une entité qui émet des ondes radio à l'autre bout de la planète, à l'autre bout de la galaxie, bon, il y a peu de chances qu'on les chope sur les 50 ans comme nous, on est en train de le faire. Alors aujourd'hui, ils se sont adaptés et ils vont aussi chercher les signaux lumineux, les signaux laser et tout ce qui peut être imaginé. Mais c'est plus juste les ondes radio parce que c'est vrai que c'est un peu réducteur.
Bah, c'est vrai que j'ai dit que je pensais pas qu'il y avait de vie extraterrestre, mais j'ai lu qu'il y a moins d'une chance sur 10 milliards de trillions pour que nous soyons la seule civilisation qui existe. Donc ça veut dire qu'il y a des fortes chances qu'il y ait des civilisations extraterrestres. Et pour reprendre un peu ce côté, nous sommes des ados climatiques, et ça répond un peu à la théorie au paradoxe de Fermi. En fait, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais rencontré d'aliens ? Et ben parce qu'en fait, tout le monde se massacre et tue sa planète avant de pouvoir aller voir ailleurs.
Alors cette probabilité, elle incite beaucoup à aller voir justement ailleurs s'il y a ou pas ces massacres entre civilisations galactiques qu'on a souvent vu sur nos écrans. Et est-ce que le coût, parce que tout ça a un coût quand même, va vous sembler peut-être plus difficile, difficilement acceptable sur le plan social au moment aussi où il faudra faire face sur Terre, sur cette bille bleue, à l'adaptation aux conséquences des dérèglements climatiques. C'est de dire, il faut protéger contre la montée des eaux, contre les étés caniculaires. Alors vous êtes gentil avec votre vaisseau bourré d'électronique et de métaux pour aller loin pour des circonstances quand même des opportunités plutôt encore hasardeuses, franchement il y a des urgences sur Terre.
T'es en train de nous dire, Antoine, en fait laissons-les venir et c'est pas à nous de faire l'effort, hein.
Ah mais moi j'irais bien volontiers par eux pour les voir, quoi. Mais c'est l'utilité potentielle de ces découvertes, quoi. Est-ce qu'il faut raisonner clairement au-delà de l'utilité, de se dire c'est notre destin d'être présent de multiples planètes comme espèce?
C'est sûr que c'est une question qui va se poser à partir du moment où il faut faire des choix financiers, économiques. On peut se dire, est-ce qu'il vaut mieux mettre de l'argent pour continuer à explorer l'espace ou pour lutter contre les famines, le réchauffement climatique. C'est une évidence, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a même, pour reparler un peu d'écologie dans l'espace, il y a même un certain nombre de déchets.
Ah oui, ça veut dire qu'en voulant y aller, on a aussi laissé des traces. Quoi. On pourrit l'espace.
Il y a des satellites qui ne fonctionnent plus, ils sont toujours là-haut.
En et orbite, qui tournent autour de la Terre.
Voilà, qui sont quand même en orbite. Il y a un moment, peut-être, ça va poser question. Donc, c'est une...
Ça pose déjà question.
Oui,
hein.
Mais ça pose déjà question. Je n'ai pas la réponse, mais oui, est-ce qu'on va pouvoir continuer à aller explorer ? J'espère que oui, parce que c'est quand même magnifique, d'une certaine manière, d'aller explorer tout ce qu'il y a autour de nous.
Mais est-ce que demain, si on découvrait une espèce, c'est-à-dire on apprend vraiment qu'il y a un message qui a été détecté, qu'on a peut-être encore du mal à caractériser, et on découvre loin une espèce, est-ce que vous pensez que sur le plan écologique, sur la façon dont on se conçoit comme être humain, comme rapport avec les animaux, avec notre environnement, est-ce que vous pensez que ça changerait ou pas quelque chose ?
Oui, je pense que ça changerait. Alors déjà, il faudrait réussir à les contacter et en douceur, sans être menaçant. Alors ça, c'est vraiment...
Ça, c'est pas ce qui nous caractérise. Hein.
Un enjeu qui est très important. Moi, je reprends les mots de Franck Marquis, qui travaille justement au CETIS et qui dit nous, notre problème, et c'est que justement notre civilisation est probablement adolescente et comme on est des adolescents, on se croit immortel. Et ce serait peut-être pas mal de trouver aussi une grande sœur qui nous mette en garde et qui nous dise, bon, écoutez les gars, moi, j'ai connu ce que vous avez vécu et je vous donne les solutions. Donc c'est un petit peu rassurant de se dire qu'il pourrait y avoir une autre civilisation qui nous aide, en fait. C'est très rassurant.
Sur ce sujet-là, je vous conseille le film Contact, qui est un excellent film.
Premier contact
ouais, avec bon Amy film. Adams, qui est un très bon film. Et moi, pour répondre un peu à ta question, moi, ce qui me fait peur, c'est que quand je vois l'accueil qu'on peut faire aux réfugiés qui viennent à 2000 km de la France, ça me fait un peu peur. Quel accueil on ferait à des aliens qui débarqueraient ? Question peut-être posée aussi dans le film Signe. Voilà.
Que de références. Effectivement, s'il y a bien peut-être quelque chose qui nous caractérise, c'est cette difficulté encore à se voir comme une seule espèce, comme partie d'un tout, que ce soit avec ces entités humaines ou non humaines. Et je me souviens que dans les années 70, il y avait eu aux États-Unis le Earth Day, vraiment le jour de la Terre, c'est-à-dire cette capacité à se célébrer comme une seule espèce, faire une fête, mais pourquoi et comment faire la fête ? Je pense que là aussi, c'est quelque chose dont on doit parler au prochain épisode.
Bah moi j'ai un début de réponse avec beaucoup d'alcool.
On verra.
Moi, je dirais juste pour le mot de la fin, c'est qu'on a quand même une échéance, c'est que le soleil va mourir dans 9 milliards d'années. Donc d'ici 9 milliards d'années, il va quand même falloir trouver quelqu'un qui va nous aider ou une autre planète où habiter. Donc il faut se réveiller. 9 milliards, c'est demain. Hein.
Et si 9 milliards, c'est demain, et s'il faut faire la fête, c'est-à-dire on mettra sur l'event sur les réseaux sociaux que c'est largement avant 9 milliards d'années.
Et c'est pas 20 minutes.
Merci à tous les deux.
Merci beaucoup, Antoine.
Ciao.
À bientôt.
Bye bye. We'll be right back.